petit index, le gauche ou le droit, pourront passer au standard et donc poser des questions à la tête de liste du Rassemblement National.
C'est pour ça que vous êtes le meilleur, parce qu'il y a peu de journalistes qui indiquent aux auditeurs s'ils peuvent téléphoner avec l'index gauche
ou l'index droit. Ça marche aussi avec le pouce. Hein,
oui, oui, mais il est magnifique. Il connaît que ses deux doigts pour l'instant, laissez-le finir sa formation. Mesdames et messieurs, c'est parti pour 2h30 d'info. Vous écoutez RTL et encore une fois, merci à Nicolas de Taverneau pour toutes ces années. Il est midi.
RTL midi. Le 12h. Céline Landreau et Éric Brunet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans RTL midi. Vous savez que c'est 2h30 d'information, 2h30 d'opinion jusqu'à 14h30. On recevra à 13h, je viens de le dire, Mathieu Vallée, tête de liste RN aux élections européennes. Et vous pourrez lui poser toutes vos questions. Le standard est ouvert dès à présent au 3210. Mais tout de suite, place à l'info jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Éric, bonjour à tous. Et à la une, le couvre-feu en réponse à l'insécurité. Empêcher les plus jeunes de sortir la nuit, c'est la solution avancée par plusieurs maires en ce début de semaine. Après Robert Ménard à Béziers, Christian Estrosi l'annonce à son tour pour Nice. Est-ce vraiment la solution? Est-ce au maire d'ailleurs de prendre ses décisions? Dans 10 minutes, David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, sera notre invité. À suivre aussi les questions toujours nombreuses après le coup de feu qui a grièvement blessé Kenji Girac hier, le chanteur qui n'a pas encore pu être entendu par les gendarmes. Le gouvernement britannique qui veut bouter les migrants clandestins hors de son royaume et les mettre dans des avions direction le Rwanda. Loi adoptée par le Parlement la nuit dernière et c'est peu dire qu'elle interroge. On y revient à 12h40. Et puis le festival des vieilles charrues menacées. Guerre ouverte entre les organisateurs et la mairie de Carhaix. À partir de 13h, vous le savez, un seul numéro, le 3210, pour discuter avec vous. Éric Brunet, dans les auditeurs, ont la parole.
Oui, on reçoit un homme de 38 ans, Mathieu Vallée, candidat RN aux élections européennes sur la liste de Jordan Bardella, ancien porte-parole du syndicat des commissaires de police. Donc voilà, il représente le RN, il sera avec nous, c'est un ancien policier de haut niveau, il répondra à vos questions. Attention, pas que sur les questions de sécurité, tout le programme du RN pour les européennes. 3210, un seul numéro, vous vous inscrivez maintenant, vous poserez votre question à Mathieu Vallée.
Avant ça, la météo avec vous aujourd'hui, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Toujours aussi frais, on est souvent 5 degrés sous les normales de saison avec de belles éclaircies du sud-ouest au nord-est et ailleurs c'est gris et nuageux et pluvieux.
Merci Peggy, les détails tout à l'heure, mais ce froid tardif, c'est le cauchemar d'une partie des agriculteurs en cette fin avril. Car les plantes avaient déjà la tête au printemps et se font surprendre. Les vignobles sont particulièrement sensibles.
C'est une jolie formule, ça. Les plantes avaient la tête au printemps.
J'essaie d'être poète.
Mais bravo,
bah Céline. Bien
oui, je vous ai un petit peu interrompu là, mais ça avait de la gueule. Pardon de le dire comme ça. Merci, voilà, ça avait de l'allure.
J'essaierai de faire aussi bien demain, c'est promis. Bonjour Samuel Goldschmidt.
Bonjour.
Samuel, vous avez passé une partie de la nuit avec des producteurs de champagne à Charly-sur-Marne. Et là-bas, pour éviter les dégâts du gel, c'est assez contre-intuitif, mais on arrose les plants de vigne.
Oui, c'est étonnant. Alors c'est sur une toute petite partie du vignoble, hein, 140 hectares sur 30 000. Et c'est dans ce méandre de la Marne où il fait toujours plus froid qu'ailleurs. Et donc on recouvre les bourgeons d'une pellicule d'eau qui va geler, faire un cocon de glace à 0 degré pour protéger les plants, surtout au lever du soleil. C'est Alain Bedel qui a commencé à installer ce réseau d'arrosage avec son père en 1972. Et depuis 50 ans, ça fonctionne.
Ah ben à chaque fois, réussite. On a descendu le plus à moins 10 degrés il y a une vingtaine d'années. C'est le dégel rapide qui brûle la vigne. C'est ça qui fait le plus de dégâts. Parce que s'il n'y a pas de soleil, quand ça dégèle, ben il n'y a pas de problème.
Et donc la glace fond lentement quand le soleil apparaît. Une fois que tout a fondu, on arrête l'aspersion. C'était vers 9h ce matin. Et l'on a revu cette vigne toute fragile qui effectivement a déjà la tête au printemps, comme chez Jean-Luc Fallet.
Ah bah là, vous avez des bourgeons qui font déjà quand même 5 cm pour les meuniers et les pinots noirs et puis au moins 10 cm pour les chardonnays. Mais le moindre gonflement de bourgeons, comme vous pouvez le voir là, un bourgeon qui fait un petit centimètre, un demi centimètre, dès que c'est gonflé comme ça, ça y est, c'est gelable.
Voilà, c'est la phase critique. Tant qu'il fera froid, les vignerons utiliseront leur thermomètre à alarme qui les réveille quand il fait 2 degrés la nuit. Ça peut être 2h du matin, 3h du matin, pour aller surveiller les thermomètres dans les vignes et déclencher éventuellement les arroseurs.
Merci beaucoup Samuel Goldschmidt à Charly-sur-Marne pour RTL.
RTL midi.
Son audition par les gendarmes sera déterminante, cruciale, car il reste encore beaucoup de zones d'ombre au lendemain du coup de feu qui a grièvement blessé le chanteur Kendji Girac.
Touché au thorax hier au petit matin sur l'aire d'accueil de gens du voyage de Biscarrosse dans les Landes, l'artiste est toujours hospitalisé. Lors de ses premières déclarations, il a expliqué avoir tiré lui-même, accidentellement, un scénario qui interroge, et c'est pour ça, Maxime, que les gendarmes veulent maintenant l'entendre en longueur.
Oui, il n'a pu dire que quelques mots hier aux enquêteurs avançant la piste accidentelle, juste avant son opération dans l'après-midi. Mais il faut pouvoir l'entendre en bonne et due forme. Son audition pourra avoir lieu quand son état de santé le permettra. Et on sait avec certitude qu'il n'a toujours pas été entendu ce matin, peut-être cet après-midi ou bien demain.
Maxime, une enquête pour tentative d'homicide volontaire a tout de même été ouverte. Ça veut dire que l'accident n'est pas la seule piste envisagée ?
Oui, et qu'il y a des zones d'ombre. Déjà, 5h du matin, une heure assez inhabituelle pour manipuler une arme à feu. Et puis, l'arme qui a été retrouvée sur indication de la famille du chanteur, c'est un Colt 45, un pistolet semi-automatique. Il est retrouvé sans chargeur, ni dedans, ni à côté. Déjà, c'est intriguant. Et puis, encore plus étonnant, il est découvert caché dans un fossé. Enfin, alors que le chanteur affirme l'avoir acheté dimanche dans une brocante, cela paraît peu probable. Il s'agit d'une arme interdite à la vente libre. Donc à la fois les auditions, l'analyse balistique, les prélèvements réalisés sur les mains du chanteur et notamment de sa compagne, voir s'il y a de la poudre en quantité importante, permettront d'accréditer ou non la piste accidentelle.
Maxime Lévy, service police justice d'RTL, merci. Un adolescent de 14 ans recherché pour être placé en garde à vue après avoir giflé son professeur en plein cours. Hier, 4 gifles, des menaces. Les faits se sont déroulés au Collège Bellevue de Toulouse, en cours de technologie. L'enseignant a porté plainte. On y revient dans le journal de 12h30. Au moins 5 migrants, dont un enfant, sont décédés la nuit dernière en tentant de traverser la Manche pour rallier l'Angleterre. Ils ont été découverts au niveau de la plage de Vimereux, dans le Pas-de-Calais. Un drame qui intervient quelques heures seulement après l'adoption par le Parlement britannique de ce projet de loi qui vise à expulser au Rwanda une partie des migrants clandestins. Un accord a été conclu avec Kigali, moyennant un dédommagement financier pour le Rwanda qui les accueillera. Partenariat qui questionne, qui choque aussi sur la scène internationale. On y revient en longueur à 12h40.
Et puis, il faut qu'on parle de ce tour de vis promis par l'exécutif sur l'assurance chômage et qui sera effectif en France dès cet été.
Oui, les nouvelles règles entreront en vigueur dès le 1er juillet. Le gouvernement l'a annoncé. Le but est clairement affiché, revenir au plein emploi et faire des économies. Les demandeurs d'emploi seront donc, d'une manière ou d'une autre, moins indemnisés, Marie-Garine.
Oui, des règles durcies. La ministre du Travail, Catherine Vautrin, assure que sa page est blanche, qu'elle va d'abord consulter les partenaires sociaux dans les semaines qui viennent avant de prendre des décisions. Mais on sait que le Premier ministre Gabriel Attal a déjà posé des jalons, soit réduire la durée d'indemnisation, soit réduire le niveau d'indemnisation, soit revoir les conditions qui permettent de toucher le chômage. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé au moins 6 mois sur les 24 derniers mois. Ce qui est déjà acquis, c'est qu'il y aura du changement pour les chômeurs seniors, puisque l'âge légal de la retraite a reculé de 2 ans. Actuellement, la durée d'indemnisation est plus longue à partir de 53 ans. Cela va donc changer. Les nouvelles règles seront réunies dans un décret dit de carence, publié en juin pour être effectif au 1er juillet pour une durée de 3 ans. Et pour l'automne, Catherine Vautrin va préparer une nouvelle loi travail, un paquet de mesures pour favoriser l'emploi, dit le ministère. Il pourrait notamment inclure le compte épargne-temps universel que la CFDT et la CFTC sont en train de négocier avec les patrons artisans de l'UDP.
Marie Guerrier. La marque d'ameublement Habitat a fait savoir qu'elle va se relancer en ligne. Le 28 décembre dernier, la justice avait placé Habitat en liquidation judiciaire et scellé donc le sort de ses magasins et de cette enseigne qui employait 400 salariés. La météo.
Avec le pneu toute saison Continental All Season Contact 2, gardez le contrôle, quelle que soit la saison et la météo.
La météo donc, Peggy Broche, et ça reste très frisqué cet après-midi.
Oui, c'est vrai qu'on a des températures souvent 5 degrés sous les normales de saison. Il en fera 10 cet après-midi à Grenoble, 11 à Alençon et Reims, 12 à Paris comme à Nice, où c'est particulièrement froid, on devrait avoir 18 degrés à Nice. C'est assez remarquable pour la saison. 13 à Nantes et à Toulouse, 14 à La Rochelle comme à Brest, 15 à Nîmes et Bordeaux, 16 à Toulon et 17 à Perpignan. Alors côté ciel, on a encore des précipitations cet après-midi, notamment entre les Alpes, la région PACA et la Corse. sous forme d'averses, de neige, des 1000 mètres, des averses localement orageuses entre la Côte d'Azur et la Corse. Et puis, on aura plus de nuages entre la Bretagne et les bords de Manche, avec de faibles pluies cet après-midi, comme sur les Pyrénées, de la neige en montagne et entre les plaines du sud-ouest, le centre du pays, l'Île-de-France, en allant vers le nord-est. Là, on a un temps sec entre nuages et de belles éclaircies.
Merci Peggy.
Merci Peggy. Après cette météo, restez avec nous car dans un instant, nous allons nous poser la question, est-ce que le couvre-feu pour les jeunes en France est la réponse à l'insécurité? On sera avec David Lisnard, qui n'est rien d'autre que le maire de Cannes et le président de l'Association des maires de France. Il sera notre invité. À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Michelin, ce n'est pas qu'une histoire de pneus, c'est aussi une tradition d'innovation sur Terre, en mer et même sur la Lune. C'est dans un instant.
C'est si bon.
Limousine.
À l'aubergine.
À la bénédictine.
À la poitevine.
À la girondine.
En mousseline.
Chez Micheline.
En mandarine.
Façon Justine.
En gélatine.
À la cantine.
En tartine.
En tagine.
En verrine.
So bling bling.
En smoking.
En jogging.
Chez la voisine.
De la grande cuisine.
Chez nous le bœuf. C'est si bon. Il y en a pour toutes les bouches. Et oui.
Au printemps, vous et votre trottinette électrique, vous êtes inséparables. Vous avez même hâte d'être lundi pour aller au boulot avec.
C'est parti.
Mais on est dimanche, là.
Pas grave, j'y vais quand même.
Pas étonnant, avec l'autonomie jusqu'à 55 km de la trottinette qu'on a sélectionnée chez Decathlon. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, la trottinette électrique Ninebot F2+, est à 499 € au lieu de 599, soit 100 € de réduction. Decathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
Céline Landreau, Éric Brunet, RTL Midi.
Mesdames, messieurs, quelle réponse politique apporter à ces faits divers qui font la une de l'actualité depuis plusieurs jours? Je parle des agressions de Samara à Montpellier, de Chemseddine à Viry-Châtillon, la mort de Philippe, par exemple, à Grande-Synthe. Et si la réponse à tout cela était le couvre-feu?
C'est en tout cas la proposition de plusieurs maires. Après Robert Ménard à Béziers, Christian Estrosi annonce vouloir, lui aussi, réinstaurer un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans dans sa ville de Nice. Bonjour David Lisnard.
Bonjour.
Vous êtes le maire Les Républicains de Cannes et président de l'AMF, l'Association des maires de France. Ils ont trouvé la bonne réponse, vos collègues?
Alors, ces couvre-feux, si vous voulez, sont pris régulièrement dans beaucoup de communes en France, notamment en période estivale, et ça peut être une partie de la réponse. C'est une réponse pragmatique à des situations de circonstanciées, c'est-à-dire que ces arrêtés doivent correspondre à des réalités locales, ils sont de la libre appréciation du maire, et ils doivent répondre à un certain nombre de conditions, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit proportionné, il ne peut pas y avoir de mesures générales et absolues, c'est le principe du droit. Mais le problème de cette violence des mineurs, que pour ma part je dénonce depuis très longtemps, hein, fait des tribunes pour alerter il y a déjà 4 ou 5 ans, que l'on retrouve partout maintenant, dans les grandes villes mais aussi dans la ruralité, tant qu'on n'aura pas un réseau concret d'établissements spécialisés qui soient vraiment fermés, c'est-à-dire des maisons de redressement pour ces mineurs délinquants, parce qu'on est bien au-delà des faits divers, hein, pour reprendre votre terme, il y a une intensification de la violence prodiguée par les mineurs, il y a la présence de mineurs systématiques sur les points de deal, moi je le vois dans ma commune, donc c'est une somme de mesures à la fois économiques sur les parents, sur les familles, mais aussi comme le propose le docteur Berger et comme on le propose à Nouvelle Énergie depuis longtemps, d'avoir des mesures de privation de liberté immédiate. C'est pas la prison, c'est autre chose, c'est pour des mineurs, ça permettra de protéger la société, mais ça permettra aussi de sauver des gamins qui ont besoin de discipline.
Mais c'est leur interdire d'être dans la rue à partir de 23h, c'est un début de solution pour lutter contre l'insécurité selon vous?
C'est une partie d'une solution dans des circonstances locales. Évidemment, mais encore ensuite, faut-il avoir les moyens de faire exécuter les décisions. Donc les maires qui prennent ces mesures, ils estiment qu'ils ont les moyens de les faire respecter, et puis ils adressent aussi un signal aux parents. Donc c'est pertinent dans un certain cas de figure. Mais le problème de la délinquance des mineurs, il nécessitera une mobilisation beaucoup plus forte de la part de l'État, et en particulier au-delà des postures et des effets d'annonce, que dans les moyens d'exécution des choses.
Mais alors les moyens, justement...
C'est très important, pardonnez-moi, mais on est dans un pays qui a le record du monde de la dépense publique, Et pourtant, on a une pénurie de ce qui est essentiel. Hein, et en particulier, la doctrine pénale, notamment sur les mineurs, elle s'adapte à la pénurie d'établissements pour les enfermer et des maisons de redressement, comme on disait à l'époque. Quoi. Et 58% des mesures de privation de liberté ne sont pas appliquées pour les mineurs. Donc il y a un problème majeur d'exécution des peines.
Alors, David Lisnard, justement, maire de Cannes, je le rappelle, et président de l'Association des maires de France, vous parlez des moyens pour faire respecter ces couvre-feux 23 heures pour les mineurs. Très bien, mais j'ai le sentiment que, finalement, ces couvre-feux, ils ne seraient possibles que dans les villes qui ont des polices municipales. Parce que qui va contrôler que ces mineurs, que ces gamins de moins de 13 ans ne traînent pas dans les rues après 23 heures ?
Lorsqu'un arrêté est pris par le maire de couvre-feu, à condition qu'il ne soit pas annulé par le tribunal administratif, puisqu'il y a des associations qui sont spécialisées pour empêcher l'ordre de revenir, hein, je pense à la Ligue des droits de l'homme notamment, ou à d'autres, ces arrêtés sont transmis pour exécution à la police nationale et à la police municipale. Donc la police nationale ou la gendarmerie nationale, si on est en zone rurale, doit être en mesure de faire appliquer des arrêtés. Mais ça, c'est la théorie. Pour que la pratique soit appliquée, encore faut-il qu'il y ait des patrouilles de police. Or, en zone police, j'en sais quelque chose dans ma commune, on a quasiment plus de la nuit, notamment les week-ends, de patrouilles de police nationale. On en a plus assez. C'est tout le paradoxe, je le répète, de ce pays qui n'a jamais autant dépensé d'argent et qui est défaillant sur ses fonctions régaliennes. Mais c'est lié à d'autres sujets.
Et c'est quoi le risque si on ne respecte pas ce couvre-feu ? C'est l'amende que les parents doivent payer ? C'est pour ça aussi que c'est dissuasif pour les parents ?
Oui, c'est une amende. C'est le fait que le mineur peut être amené chez lui. Donc c'est en cela que c'est un outil qui peut être intéressant, mais qui ne réglera pas structurellement le problème. Mais moi, je comprends complètement les mères qui en ont assez de voir des gamins faire du deal ou agresser d'autres gamins à minuit, quoi. Et donc, si c'était le cas dans ma commune, bah, je prendrais un tel arrêté aussi pour stimuler l'action publique.
Mais vous y pensez ?
Oui, mais on a déjà pris des mesures similaires dans le passé. Hein. Elles doivent être circonstanciées, justifiées et éphémères. Hein. Autrement, elles sont entachées d'illégalité.
Revenons sur l'efficacité supposée de ces mesures, parce que dans les affaires dont on a parlé, je sais pas, Jemsedine, Samara, Philippe à Grande-Synthe, la plupart du temps, les mises en cause ont plus de 13 ans. Alors, est-ce que ces couvre-feux, qui visent le plus souvent les moins de 13 ans, constitueraient vraiment la réponse politique à ce sujet de grande délinquance ou de violence ?
Si vous voulez, il y a pas que les faits que vous évoquiez tout à l'heure qui ont été médiatisés. Il y a quand même un quotidien de mineurs qui tiennent des points de deal. C'est vrai partout maintenant. Et c'est quand même un sujet de société majeur, quoi. Avec des rémunérations mensuelles qui vont à 4000 euros par mois. Et avec la complicité parfois des parents. Donc le sujet, il est vaste.
Mais ce sont aux maires de gérer ça aujourd'hui.
Mais il y a aussi des conflits entre bandes. Moi, il y a eu des bagarres l'année dernière dans ma commune entre bandes qui essayaient de s'installer pour tenir les points de deal.
Mais ce sont aux maires aujourd'hui de gérer ça. On voit qu'à Pointe-à-Pitre, c'est l'État qui a pris la décision d'instaurer le couvre-feu.
Si vous voulez, c'est une très bonne question. L'État a été inventé pour protéger la nation. C'est ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. Sauf qu'un maire, c'est un praticien, c'est un pragmatique, c'est un habitant qui est mandaté par les habitants pour essayer de régler les problèmes. Et comme on voit la carence de l'ordre régalien partout aujourd'hui, y compris dans la ruralité, eh bien, de façon pragmatique, on essaie dans la mesure des moyens qui sont les nôtres en tant que maire, on a très peu de moyens, on n'a pas l'autorité judiciaire, on n'a pas le pouvoir d'enquête, mais de prendre des mesures qui vont stimuler l'action publique, stimuler aussi l'attention médiatique, la preuve, hein, on fait cette interview par les initiatives des maires. Donc c'est une façon aussi d'alerter et de provoquer une réaction contre ce fléau de la délinquance des mineurs.
Merci beaucoup David Lisnard, maire de Cannes, maire Les Républicains, on le rappelle, et président également de l'AMF, l'Association des maires de France. Merci d'avoir réagi dans RTL Midi.
Nous reviendrons d'ailleurs dans ce sujet, dans Les Auditeurs ont la parole, après votre interview, l'interview que vous ferez vous de Mathieu Vallet, un des candidats de la liste de Jordan Bardella RN. Vers 13h40, nous parlerons de ce sujet. Faut-il un couvre-feu, une extension de ce principe du couvre-feu pour les mineurs dans toutes les grandes villes ou dans toutes les villes où il y a des problèmes? 32-10, on en parle dans un instant. Il faut que je vous dise que dans un instant, justement, on va parler des vieilles charrues, ce festival mythique dans le Finistère Sud qui est menacé. Il y a une guerre ouverte à Carhaix entre les organisateurs du festival des vieilles charrues et la mairie de Carhaix. À tout de suite.
RTL Midi, Céline Landreau et Éric Brunet.
Jusqu'au 30 avril, découvrez les séries limitées Audi Black Edition sur les modèles A1, Q2, Q3, A4 Avent et Q5 à partir de 370€ par mois avec apport. Profitez d'équipements d'exception comme le pack esthétique noir exclusif, le volant et les jantes Audi Sport et la caméra de recul sur l'Audi A1. Rendez-vous chez votre partenaire Audi ou sur Audi.fr.
Offre en LLD pour une Audi A1 Sportback 30 TFSI S-Tronic Black Edition. Premier loyer de 800€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pensez à covoiturer.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez Savatha et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536€.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divan et de qualité.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
Ce mardi, jackpot Euromillions de près de 130 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Tout savoir sur le reconditionnement des voitures d'occasion avec Autosphère. Vous souhaitez une voiture au prix de l'occasion mais avec une fiabilité irréprochable ? Rendez-vous dans un instant.
On vous connaît, vous l'ouvrez tous les jours. Alors choisissez la qualité J-Pass. J-Pass, porte de garage et portail. Tous les produits J-Pass sur jpass.fr.
Visio Confucius, tu vois ? Toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
RTL Midi, un jour chez vous.
RTL Midi, un jour chez vous. Chaque jour, l'info est au plus près de vous. Et aujourd'hui, nous allons à Carhaix, dans le sud Finistère, où le mythique et légendaire festival des vieilles charrues est menacé.
Oui, car les organisateurs sont en guerre ouverte avec la mairie qui a préempté un bâtiment destiné à être acheté par le festival. Et ce n'est pas tout. La communauté de communes de Poher fait aussi savoir que dans 2 ans, elle ne mettra plus à disposition tous les terrains occupés habituellement par les campings. On rappelle quand même que les vieilles charrues, ce sont 300 000 spectateurs chaque année. Alors les organisateurs s'interrogent, faut-il déplacer le festival, y mettre fin ? Bonjour Mathieu Lopineau.
Bonjour.
En tout cas, pour les habitants de Carhaix que vous avez rencontrés, c'est inimaginable.
Et effectivement, dans ce bar du centre-ville, il est impossible pour ses clients de dissocier la ville de Carhaix au festival des vieilles charrues.
Carhaix sans les vieilles charrues, non. Tout le monde en parle, oui. Les vieilles charrues, c'est ce qui représente Carhaix, quoi.
Les gens sont attachés au festival. Il y a quand même un attachement au territoire.
On connaît les vieilles charrues pour Carhaix. Ouais. C'est l'image de Carhaix, du coup, les vieilles charrues, donc oui.
Si ça installe autre parc que Carhaix, ce serait plus les vieilles charrues.
Et les tensions entre les organisateurs du festival et la mairie ne datent pas d'hier, hein, mais les relations se sont tendues, c'est vrai, ces derniers temps. Christian Troidec, le maire de Carhaix, est d'ailleurs un membre fondateur du festival des vieilles charrues. Les organisateurs ont déjà menacé à plusieurs reprises de déménager le festival vers d'autres communes, ce qui est difficilement imaginable donc pour Quentin, 30 ans, qui ne rate pas une seule édition depuis ces 7 dernières années.
Vieille Charrue, c'est quand même un très grand festival. Je pense qu'ils ont besoin de beaucoup de terrain. Il faut qu'ils trouvent un emplacement ailleurs aussi. Pour trouver la même chose dans le coin, je pense que ça va être compliqué quand même. Ça apporte pas mal d'activités sur le territoire.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a une ferveur des habitants de Carhaix pour leur festival, les Vieilles Charrues, on l'entend, mais au-delà de ça, les Vieilles Charrues, ça vient d'être dit, représentent également des retombées économiques pour le territoire.
Oui, c'est 18 millions d'euros de retombées, 2500 emplois directs et indirects. Hervé gère le bar Le Welcome en centre-ville de Carhaix. Le festival lui rapporte beaucoup d'argent chaque année.
Pendant 4 jours, c'est 30% du chiffre d'affaires à l'année. On fait l'équivalent à leur quinzaine de semaines, quoi.
En 4 jours, vous faites l'équivalent de 15 semaines.
Ouais. Mais bon, on a des charges supplémentaires puisqu'on est obligé d'embaucher du personnel. On travaille pas à 2, on travaille à 10 pour les charrues. Ah, nous, ça nous fait mal, hein. Je pense que pour l'économie locale, ce serait un coup dur, hein. Donc c'est important. Ici, on a besoin de ça. On arrive à vivre sans ça. Mais c'est un peu comme un chef étoilé. Il peut vivre sans l'étoile, mais il vit tellement mieux avec, quoi.
Parce que le festival des vieilles charrues de Carhaix ailleurs, c'est pas possible.
Non, on n'y croit pas vraiment, mais bon, ça perdrait son identité un peu, non ?
Ouais, même chose pour ce boulanger. Damien, 28 ans, compte beaucoup sur le festival pour booster son chiffre de l'année.
1000 baguettes moulées par jour. Avec tous les sandwichs, on pourrait taper les 200 sandwichs par jour.
Et normalement, c'est combien ?
60.
Fois 3 ou 4.
Facile, ouais. Par jour.
Ah, donc si le festival part ou arrête, vous, ça vous toucherait, quoi.
Ah bah complètement, ouais.
Parce que le festival des vieilles charrues de Carré ailleurs, c'est pas possible.
J'espère pas. Tout le monde connaît Carré par rapport aux vieilles charrues, hein, ça c'est sûr. Hein.
Et sans ça, Carré...
Ça n'existe plus, ouais. Moi j'y vais depuis que j'ai 10 ans, donc ça va faire presque 18 ans. Donc,
Ça représente quoi?
Des souvenirs. Tous les grands artistes, quoi. Non, ce serait dommage quand même.
Et le maire de Carré, Christian Troidec, n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais tous ici espèrent qu'une solution sera donc rapidement trouvée entre la mairie et les organisateurs du festival pour que les charrues continuent donc de résonner ici en Centre-Bretagne. On vous rappelle que la 32e édition se déroulera donc encore à Carré cette année, du 11 au 14 juillet prochain.
Merci beaucoup Mathieu Lopineau.
Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute. RTL Midi, votre vie.
Et un sujet grave aujourd'hui dans RTL Midi, votre vie, c'est ces drames qui se nouent juste après les naissances et qui sont aujourd'hui, écoutez bien, la première cause des morts maternelles dans ce pays, le suicide des jeunes mamans.
Bonjour Catherine de Notaro.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, spécialiste d'épidémiologie périnatale. Tous les 4 jours, une femme décède en France d'une cause liée à la grossesse ou à l'accouchement. Alors, quand on entend ça, on pense problème cardiovasculaire, hémorragie. Mais ce que révèle l'enquête de l'INSERM et de Santé publique France, c'est que la première cause de mortalité aujourd'hui, c'est le suicide, 17% des cas.
Absolument. Donc, cette prédominance des suicides, en fait, a deux raisons, je dirais. C'est que, d'une part, on les mesure bien maintenant, et ça fait pas si longtemps, en fait. C'est seulement le deuxième rapport triennal que l'on publie où ces suicides sont correctement identifiés. Donc, on prend vraiment la mesure de l'importance de la santé mentale dans la mort maternelle. Et c'est aussi parce que d'autres causes ont vu leur contribution diminuer, et notamment les hémorragies, qui ont longtemps été la première cause de mort maternelle, hein, les hémorragies après l'accouchement. Et grâce à une mobilisation importante, cette cause a considérablement diminué en France, et donc fait apparaître l'importance d'autres causes qui sont plutôt extra-obstétricales, donc qui concernent d'autres domaines de la santé de la femme et notamment sa santé mentale.
Est-ce qu'il y a des facteurs de risque particuliers auxquels la société, les familles, les entourages doivent prêter attention? Je sais pas, la situation sociale, la réalité démographique, la vie familiale, l'âge de la maman.
Donc, je crois que la chose vraiment à dire en premier lieu, avant de venir aux groupes qui sont plus à risque, c'est que ça peut survenir chez tout le monde. Même si, effectivement, vous avez raison, il y a des groupes plus à risque. Donc, la vulnérabilité sociale est plus fréquente chez les femmes qui se suicident que dans l'ensemble des femmes qui accouchent en France, et notamment, et c'est ce qui est important, la dimension d'isolement social dans cette vulnérabilité, donc des femmes qui sont plus souvent sans conjoint ou sans coparent dans les suites de l'accouchement, ou isolées plus globalement socialement. En termes d'âge, il n'y a pas beaucoup de différence, elles sont un petit peu plus âgées, mais pas de façon importante. Mais ce qui est bien sûr important, c'est que la moitié de ces femmes, quand on cherche bien, ont des antécédents de vulnérabilité psychique ou psychologique, y compris en remontant jusqu'à l'adolescence. Donc le message important, c'est aussi pour ces femmes de savoir livrer ces histoires qui remontent à éventuellement loin dans leur vie, à l'adolescence, aux soignants qui vont les prendre en charge, sages-femmes ou obstétriciens, au moment de leur grossesse.
Est-ce qu'on sait si ça arrive plus souvent après le premier enfant, ou est-ce que ça peut aussi arriver après un deuxième, troisième enfant?
Alors, ça peut arriver après le premier, le deuxième, le troisième. C'est un petit peu plus souvent après le premier, vous avez raison. Donc une petite vulnérabilité un peu plus importante des femmes dont c'est le premier enfant, mais pas de façon très marquée, donc ça peut aussi arriver après une grossesse qui vient après plusieurs enfants.
C'est vrai qu'on a souvent à tort le sentiment que les problématiques liées à la santé des femmes enceintes eh bien s'arrêtent après l'accouchement. Ouais, c'est réglé, merci, au revoir, la prochaine fois. Quoi.
Absolument, et c'est ce que nous montre bien cette temporalité des suicides, hein, puisqu'ils surviennent en majorité après l'accouchement, voire loin après l'accouchement, avec un pic de survenue qui est à 4-5 mois après l'accouchement. Donc à un moment où, d'une part, les femmes ne sont plus pour elles-mêmes en lien avec le système de soins, et c'est bien tout le problème. C'est qu'on pense que l'accouchement est résolu, c'est suite immédiate. En général, il y a une visite avec l'obstétricien ou la sage-femme à quelques semaines après l'accouchement. Mais en fait, bien au-delà, la santé mentale et l'état psychologique peut être perturbé, et des signes peuvent apparaître. Et donc, c'est vraiment le message qu'on souhaite faire passer
les premiers signes, justement, s'il y en avait à surveiller pour des gens qui ont autour d'eux une femme qui vient d'avoir un enfant?
Donc, c'est les signes classiques de dépression qui sont la tristesse et le manque de plaisir, notamment le manque de faculté à prendre plaisir avec son enfant, ce qui est très culpabilisant pour la femme et qu'elle peut avoir du mal à livrer à son entourage puisqu'on s'attend à ce qu'elle soit très heureuse. Elle ne l'est pas. Et donc, il faut vraiment...
Faut agir dans ces cas-là.
Agir, exactement.
Merci beaucoup, Catherine de Neutarour. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, spécialiste d'épidémiologie périnatale. Et on rappelle cette donnée, hein, le suicide des jeunes mamans, première cause de mortalité chez les femmes qui viennent d'avoir un enfant. Merci encore.
Merci à vous. Dans un instant, mesdames, messieurs, votre rendez-vous, l'info à la mi-journée, le midi 30. À tout de suite sur RTL.
Céline Landreau, Éric Brunet. RTL midi jusqu'à 13h. On en parle.
Les acteurs de la filière bovine s'engagent au quotidien pour vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle avec Marie-Vonne Lagaronne, éleveuse dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour.
Bonjour.
Alors en quoi l'élevage bovin herbagé est-il plus durable?
Eh bien, il l'est parce que l'alimentation que l'on donne à nos bovins est composée en moyenne de 84% de produits issus de nos fermes.
D'accord. Et de quels produits s'agit-il exactement?
Bon, bien sûr de l'herbe, hein, en premier, ouais. Mais aussi de céréales, de blé, d'orge, de maïs, de tournesol. Ouais. L'avantage, ce sont des productions en grande partie qui sont non consommés par l'homme.
Et qu'en est-il de la fertilisation des sols? Autrement dit, comment nourrissez-vous vos terres?
Sur la partie culture, 35% des sols de notre filière sont fertilisés avec des lisiers, des fumiers. Ce sont des matières naturelles.
Très bien.
Et ça nous permet de réduire l'utilisation des engrais de synthèse et de limiter le transport des fertilisants.
Merci beaucoup, Marie-Vonne.
On en parle. Consultez nos sources d'informations sur interbev.fr, rubrique enjeux sociétaux. Rapport Interbev RSO 2021-2022 et étudie dès 2021.
Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protège-slip large Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si à Cordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, c'est cuit.
Pour Lidl?
Et non, pour nous et pour les crevettes. En ce moment, la barquette de 100 grammes de crevettes AIC décortiquées au citron et à la coriandre est à 2,30€ au lieu de 2,99€, moins 23%.
2,30€ les crevettes.
Eh oui, on est mal.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 23€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mercredi 24 avril. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est midi 30.
RTL midi. 12h30, Céline Landreau, Agnès Bonfillon.
Bonjour Agnès.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Un élève de 14 ans interpellé ce matin à Toulouse, il est accusé d'avoir frappé son professeur de technologie hier, frappé et menacé. Il avait pris la fuite après les faits. Mais où est donc passé Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement National aux élections européennes? Se fait très discret dans les médias, en tête dans les sondages. Il envoie ses colistiers en première ligne. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs Mathieu Vallée qui participe au grand jury des auditeurs, Eric.
Oui, oui, l'ancien commissaire de police, il sera notre invité. D'ailleurs, il va parler du programme du RN et vous lui poserez des questions, mesdames, messieurs. C'est vous qui faites l'émission dans une poignée de minutes, à 13h, un seul numéro, le 32-10.
Et puis à la fin du journal, on vous raconte l'histoire d'un jeune joueur de tennis qui, depuis hier, se pince pour y croire. À 16 ans à peine, écoutez bien, il va affronter en fin de semaine un certain
Raphaël Nadal.
Oh, rien que ça.
Régler le problème de l'immigration clandestine en mettant les migrants dans des avions direction le Rwanda, c'est la solution adoptée par les parlementaires britanniques. C'est peu dire que ça fait débat, on y reviendra après le journal à 12h40. Et puis juste avant 13h, LVT midi, avec les rois du polar ésotérique, Éric Giacometti et Jacques Raven publient une nouvelle enquête et Bernard Lehu vient nous en parler.
La météo, ce sera à la fin du journal, mais déjà Peggy Broche en indice.
Avec un temps sec et des éclaircies entre les plaines du sud-ouest et le nord-est, plus nuageux et humide ailleurs et des températures toujours aussi fraîches.
Merci Peggy.
Jusqu'à 13h, RTL Midi.
94 jours, il reste 94 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Est-ce suffisant ou pas pour que la Seine puisse accueillir les épreuves de nage en eau libre? Le compte à rebours est lancé et une station de dépollution des eaux pluviales inaugurée en ce moment même à Champigny-sur-Marne. Bonjour Narissa Emani.
Bonjour.
Vous êtes sur place hein, pour RTL. On prend le problème à la source, si j'ose dire. Narissa, on nettoie les eaux de pluie qui tombent dans la Marne qui, on le rappelle, principal affluent de la Seine.
Exactement, et c'est totalement inédit hein, comme système, l'idée de dépolluer 95% des eaux de pluie qui drainent des déchets, par exemple sur les trottoirs, avant de se déverser dans la Marne. Et donc, je me trouve dans cette station flambant neuve, coût du projet 53 millions d'euros. Et donc, au milieu des machines, je vais vous expliquer le processus. Il y a des grandes cuves d'eau de pluie qui passent par des grillages pour enlever les plus gros déchets, puis une cuve de décantation et enfin tout un système de lampes UV, une centaine de néons au rayon ultraviolet, comme l'explique Thierry, responsable des travaux assainissement du Val-de-Marne.
L'eau circule entre ces ampoules qui sont allumées. Ça s'attaque vraiment aux bactéries et même aux virus. On ne met pas de produits, on ne met pas de chlore, pas d'eau de Javel, vous voyez. Et donc on n'a pas de poudre perlimpinpin pour essayer de diminuer la pollution.
À la fin, 700 litres de cette eau toute propre vont se déverser chaque seconde dans la Marne, puis dans la Seine. Alors attention, hein, c'est pas de l'eau potable qu'on peut boire, mais qui va permettre, si tout se passe bien, de se baigner. C'est en tout cas l'objectif, d'abord dans la Seine, puis avec les JO bien sûr, puis dans la Marne l'an prochain, du jamais vu depuis 1970 tout de même.
Ce sera déjà pas mal, si on ne pas boire si bien. Merci beaucoup Narissa Emani en direct de Champigny-sur-Marne pour RTL.
RTL Midi.
À Toulouse, après plusieurs heures de recherche, un adolescent de 14 ans a été interpellé ce matin.
Oui, il est accusé d'avoir frappé en plein cours son professeur de technologie. Hier, ça s'est passé au collège Bellevue, Valentin Larquier. Ce n'est pas la première fois que cet élève a des problèmes de discipline.
Effectivement, alors il n'était pas connu de la justice, mais il a déjà eu des problèmes disciplinaires au collège et une procédure d'exclusion est prise à son encontre après l'agression d'hier. Selon les premiers éléments de l'enquête, hier matin, pendant un cours de technologie, le professeur reprend cet élève de troisième. Il a une attitude irrespectueuse. L'élève se lève d'un coup, attrape par le col son professeur, il le plaque contre le mur et le gifle quatre fois. Les camarades de cet adolescent qui assistent à la scène arrivent à séparer le professeur et l'élève, ils le sortent de la salle. Mais l'adolescent ne se calme absolument pas. Il menace même de mort son professeur en lui criant à plusieurs reprises « Toi, je vais te fumer ». À la suite de cette agression, le professeur de technologie porte plainte. Le principal du collège Bellevue également, l'établissement qui accueille 800 élèves est situé au sud de Toulouse, près de l'université Paul Sabatier, dans un quartier plutôt tranquille. Et selon des sources policières, le jeune homme de 14 ans a effectivement été interpellé ce matin à son domicile. Il est actuellement placé en garde à vue à Toulouse.
Valentin Larquier pour RTL. Merci Valentin. Les enquêteurs espèrent en apprendre davantage avec l'audition de Kenji Girac, blessé par un tir hier matin. Malgré les déclarations du chanteur qui dit s'être blessé seul, de façon accidentelle avec un pistolet, une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte.
Le fait de ne pas savoir, ça permet de garder espoir. Pour la première fois depuis la disparition de sa fille, le père de Lina sort du silence.
Il accorde une interview aux dernières nouvelles d'Alsace. C'est là-bas, dans le Bas-Rhin, que Lina s'est volatilisée il y a 7 mois, jour pour jour. L'adolescente de 15 ans a disparu sur le trajet entre son domicile et la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Elle fait partie de ces 70 000 personnes qui disparaissent chaque année en France. Alors, l'immense majorité est rapidement retrouvée, mais quand même près de 1000 individus reste introuvable, un chiffre donné par l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues, une association qui regroupe des bénévoles. Ils enquêtent par leurs propres moyens. RTL Événements ce matin était consacré à leur travail avec un reportage de Vincent Serrano.
C'est parti. La colonne de gilets jaunes orange s'enfonce dans les bois. Florence, votre vrai métier, c'est documentaliste.
Oui.
C'est votre première battue. Et
oui.
Vous avez l'air inquiète.
On se dit, on a une responsabilité. On ressent la détresse de la famille en même temps et on aimerait leur apporter une réponse. Des affiches. On a beaucoup parlé avec les promeneurs, les cyclistes, tous les gens qui viennent dans la forêt. Porte à porte, commerce. On a fait aussi des démarches auprès des paroisses puisque Bruno était croyant. On a vérifié les puits. On y pense tous les jours. Ça nous obsède, on se demande mais quelle action est-ce que je peux encore faire.
Un engagement qui émeut Xavier, c'est l'un des membres de la protection civile que Florence a réussi à mobiliser, c'est vous qui pilotez le drone.
Les gens qui travaillent, qui ont une vie à côté, qui prennent sur leur temps libre pour chercher des personnes disparues. Moi j'ai le frère du disparu qui m'a clairement dit malheureusement on recherche un corps plutôt qu'une personne vivante.
RTL événement signé Vincent Serrano à retrouver en intégralité sur le site et l'appli RTL.
C'est assez incroyable. Dans la fin, des auditeurs ont la parole à partir de 14h. On parlera de ce thème. Vous êtes, vous aussi, enquêteur bénévole. Vous avez participé à une battue, par exemple, pour retrouver des personnes disparues. Appelez-nous au 3210. On en parle à 14h sur RTL.
Remobiliser les troupes, voire mobiliser d'ailleurs en vue des européennes. Emmanuel Macron reçoit Valérie Ayer, candidate de la majorité ce midi à l'Élysée.
Et elle n'est pas la seule hein, autour du président de la République qui a également convié les ténors de son camp pour les pousser à s'investir davantage dans cette campagne. Vous le savez, cela fait plusieurs semaines qu'RTL reçoit régulièrement les têtes de liste dans le grand jury des auditeurs avec vous, Eric. Enfin, tête de liste. Aujourd'hui, ce n'est pas Jordan Bardella, mais Mathieu Vallée qui répondra à vos questions à partir de 13h.
38 ans, ancien commissaire de police.
Oui, et c'est pour la liste du Rassemblement National. Alors, cela dit, il n'y a pas Jordan Bardella, mais l'ancien commissaire, justement, est une véritable prise de guerre pour l'extrême droite, hein, Thomas Desprez.
Oui, à tel point que d'autres partis auraient bien aimé mettre la main dessus. Mathieu Vallée, c'est une figure connue des téléspectateurs, notamment des chaînes info, ce qu'on appelle un bon client, un gage de crédibilité aussi hein, pour le RN qui raffole de ce genre de profil, toujours avec l'objectif hein, de montrer que, ce sont désormais des personnalités de la société civile qui les rejoignent. C'est d'ailleurs aussi pour ça que Jordan Bardella a préféré laisser sa place devant le micro ce midi. C'est lui hein, qui pourtant avait été invité comme toutes les autres têtes de liste, vous l'avez dit. Mais les équipes du RN préfèrent désormais mettre en avant ce genre d'autres profils, même si à la longue hein, cette manière de sélectionner les passages médias commence à faire jaser en coulisses. Attention à l'excès de confiance, glisse un concurrent. Bardella, il a le melon, la grosse tête estime un autre chez Renaissance, mais assurez-vous, hein, la tête de liste du RN viendra bien sur RTL, ce sera dans 10 jours, il participera au premier grand débat avec toutes les têtes de liste, ce sera le dimanche 5 mai à midi dans le grand jury.
Thomas Desprez du service politique de RTL.
Et donc Mathieu Vallée sera dans 20 minutes en direct sur cette antenne, vous pouvez lui poser toutes vos questions, candidat de la liste de Bardella RN, et vous faites le 32-10, mesdames, messieurs, et il répondra à vos questions.
RTL Midi.
Il n'était pas encore né lorsque Nadal a remporté son premier Grand Chelem en 2005. Un jeune tennisman va affronter son idole.
Les dieux de la balle jaune sont déjà avec lui, c'est sûr. Invité au tournoi de Madrid qui débute demain, l'Américain Darwin Blanche, 16 ans, a vu le tirage au sort lui désigner comme adversaire l'un des plus grands champions de tennis, classé 1028e, Eric Silvestro. Ce Darwin va donc se retrouver face à Raphaël Nadal.
Oui, l'incarnation même du rêve américain pour cet adolescent qui fêtera ses 17 ans le 28 septembre prochain. Génération oblige, Darwin a évidemment partagé son émotion sur les réseaux sociaux en postant une photo de lui en gros plan, la main sur le visage, incrédule avec ce commentaire « Les gars, je joue Nadal, 21 ans et 117 jours, jamais un tel écart n'avait existé dans un match de Masters 1000 ». Et même si ce n'est pas un record, hein, les Autrichiens Thomas Muster et Dominic Thiem avaient 25 ans et 337 jours de différence quand ils se sont affrontés à Vienne en 2011. Le symbole est bien plus fort. Rafa avait déjà gagné 3 Roland-Garros à la naissance de son adversaire. Darwin Blanche va donc se présenter face au meilleur joueur de l'histoire sur terre battue dans son pays à 16 ans pour son deuxième match seulement sur le circuit ATP. Ce sera le 1294e de l'Espagnol qui, dans sa quête d'une sortie digne de son statut à Paris dans quelques semaines, se souviendra sans doute de ce 29 avril 2002 lorsqu'il disputa et remporta son premier match à Majorque contre Ramon Delgado. Il avait 15 ans, 10 mois et 26 jours, plus jeune que Blanche donc.
Et est-ce que Darwin a une chance ?
Bah, on sait jamais en tennis.
On sait jamais.
Normalement non quand même.
Merci Eric.
Théorie d'évolution, ça dépend.
La météo, oui. Merci. La météo, Peggy, pour cet après-midi.
Avec un temps sec et entre nuages et éclaircies entre les plaines du sud-ouest, l'Île-de-France en allant vers le Grand Est. Ailleurs, c'est plus nuageux et les nuages vont se renforcer entre la Bretagne et le nord du pays avec de faibles pluies. Des nuages également le long des Pyrénées avec de la neige des 1000 mètres. Et puis, c'est un temps encore instable sur la façade est entre les Alpes, la région PACA et la Corse avec des précipitations sous forme d'averses, de neige des 1000 mètres et des averses localement orageuses entre la Côte d'Azur et la Corse et beaucoup de mistral et tramontane jusqu'à 80 km/h. Les températures restent fraîches pour la saison, souvent 5 degrés sous les normales, de 11 à 14 sur la moitié nord, de 12 à 17 dans la moitié sud, 17 à Montpellier.
Merci beaucoup Peggy. Régler le problème de l'immigration clandestine en mettant les migrants dans des avions direction le Rwanda, c'est la solution adoptée par le Royaume-Uni et forcément ça choque un peu. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Éric Brunet, Céline Landreau. Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Cyril Roger, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur communication et innovation chez Michelin. L'innovation et Michelin, c'est une histoire d'amour.
Absolument, et ça fait même 130 ans que l'innovation est au cœur de l'histoire de Michelin. D'ailleurs, nous faisons partie des 100 entreprises les plus innovantes au monde.
Et justement, sur quelles innovations travaille Michelin ?
Eh bien, au-delà de notre ambition de créer des pneus tout durables d'ici 2050, nous exploitons aussi notre savoir-faire en matériaux composites pour ouvrir de nouveaux horizons.
Lesquels, par exemple ?
Alors, Michelin travaille notamment sur le projet Wizamo, un système automatisé d'ailes gonflables pour cargo qui vise à réduire les gaz à effet de serre du transport maritime.
Merci Cyril Roger.
RTL. Hey, trop de boulot. Tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte ?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Eh oui, ce que l'on remarque en premier chez vous, c'est votre portail. Alors choisissez la qualité J-Pass. Tous les produits J-Pass sur jpass.fr.
C'est si bon.
Charolaise.
Parthenaise.
À l'orléanaise.
À la bolognaise.
À la lyonnaise.
À la mayonnaise.
À la nivernaise.
À la landaise.
À la bordelaise.
À la rochelaise.
À la marseillaise.
À la basquaise.
À la piémontaise.
À la castraise.
Façon Thérèse.
À la française.
Chaud comme la braise.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches. Oui,
oui. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RTL Midi. Avec Éric Brunet et Céline Landreau.
Régler, les amis, le problème de l'immigration clandestine en envoyant les migrants, quelle que soit leur nationalité, leur origine, au Rwanda. C'est le projet de loi très contesté et qui a été adopté cette nuit par les Britanniques.
Les premiers avions devraient d'ailleurs décoller dès juillet, solution qui interroge pour le moins. Pour en parler avec nous, Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. Bonjour Marie.
Bonjour.
Et Bénédicte Tassard, chef du service international d'RTL. Bonjour Bénédicte.
Bonjour, bonjour à tous.
Marie, d'abord expliquez-nous que contient exactement l'accord passé avec Kigali ?
Alors, c'est basé sur un traité que Londres et Kigali ont signé et qui prévoit que une partie des demandeurs d'asile qui arriveraient illégalement au Royaume-Uni seraient envoyés au Rwanda pour que leur demande y soit étudiée par les autorités rwandaises et qu'ils puissent, si leur demande est acceptée, s'installer en tant que réfugiés au Rwanda. Le but de ce texte de loi pour le Royaume-Uni, eh bien, c'est que c'est qu'une partie des demandeurs d'asile ne soit pas gérée par Londres, mais c'est aussi à terme de dissuader les traversées de la Manche, que la peur d'être envoyé au Rwanda fasse que finalement les candidats à la traversée de la Manche ne prennent pas la mer.
Alors pourquoi le Rwanda et pourquoi ne pas les renvoyer chez eux dans leur pays d'origine?
Alors, parce que les renvoyer chez eux, ce serait contrevenir à la Convention des réfugiés qui prévoit qu'une personne ne peut pas être renvoyée dans son pays d'origine si sa sécurité n'est pas assurée. La plupart des pays qui sont fuis sont en guerre, en proie à une grande pauvreté ou bien il y a des discriminations légales. Donc, si l'intégrité de la personne ne peut pas être assurée par le pays dans lequel il se trouve et qui le renverrait dans leur pays d'origine, eh bien, ce serait illégal de le faire.
Et comment s'est perçu au Royaume-Uni cette décision?
Alors, il y a deux écoles. Ceux qui veulent absolument réduire au maximum, voire à néant, le nombre de migrants qui arrivent par la Manche et qui présentent ce projet donc comme un acte humaniste. C'est ce qu'a dit le Premier ministre. C'est pour sauver des vies, puisque le but est de dissuader les traversées de la Manche. Et la tragédie de ce matin renforce cet argument. Et puis, il y a ceux, bien sûr, qui sont contre cette loi par principe. Elle manque d'humanité, selon l'opposition, qui pense de toute façon qu'elle est impraticable. Et c'est pour ça, finalement, que la gauche a laissé passer le texte, finalement, hier soir, pour que le gouvernement se prenne les pieds dans son propre tapis, qu'il ne parvienne pas à mettre son propre texte en pratique et qu'il en soit humilié. La majorité, elle, voit les choses autrement. Même si les vols ne décollent pas, ou peu, au moins la droite pourra dire qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait et elle pourra blâmer soit la gauche, soit les associations, soit la justice, selon qui bloque.
Merci Marie, vous parliez du drame de ce matin. On rappelle effectivement que 5 personnes ont été retrouvées mortes sur une plage du Pas-de-Calais, dont un enfant. Bon, sortons un peu de la politique britannique, Bénédicte Tassard. Cette solution, un peu radicale, on peut le dire, on peut l'envisager ailleurs en Europe?
Alors, elle n'existe pas, mais regardez le PPE, le groupe au Parlement européen qui regroupe les partis de droite. Eh bien, le PPE mené par Ursula von der Leyen, l'actuelle présidente de la Commission, penche pour une solution à la rwandaise en Europe. On y réfléchit pour après les élections européennes. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Il y a bien le pacte asile et migration récemment adopté, qui prévoit simplement que les migrants entrés illégalement par l'Italie, par l'Espagne, par la Grèce, soient répartis sur le territoire européen en attendant que leur dossier soit traité. Maintenant, il existe aussi des initiatives prises individuellement par certains pays d'Europe. Ainsi, l'Italie construit en Albanie actuellement des centres d'accueil pour les migrants repêchés en mer Méditerranée. La différence, c'est que le migrant expulsé au Rwanda n'a aucune chance d'atterrir au Royaume-Uni. Son renvoi est définitif, mais le migrant qui va attendre le traitement de son dossier en Albanie, lui, pourra peut-être arriver finalement en Italie.
Mais alors ça voudrait dire, je vous écoute Bénédicte Tassard, que des migrants qui sont entrés illégalement sur le territoire de la République française pourraient être envoyés aussi dans ce type de camp ?
Alors, pour l'instant, la France, elle travaille pas du tout à ce type de solution. La France est exclue n'est pas dans cette réflexion. L'Italie et l'Albanie, eux, ont signé un accord. Les centres en Albanie vont ouvrir le 20 mai prochain, c'est bientôt, pour les hommes en bonne santé qui sont repêchés en mer Méditerranée. Les femmes, les enfants, les personnes blessées, elles iront en Italie en attendant leur statut de demandeur d'asile. L'Allemagne pourrait suivre, cette fois avec la Macédoine du Nord. Et maintenant, il existe aussi des bureaux ouverts en Tunisie par l'Autriche et le Danemark, des bureaux dits de protection de leurs frontières. Ces deux pays veulent que la Tunisie accueille chez elle tous les ressortissants subsahariens qui ont attendu des années en Tunisie avant de tenter leur chance sur des embarcations de fortune et qui sont arrivés à Copenhague ou alors à Vienne, mais illégalement.
On comprend que ce sont des accords bilatéraux, donc, Bénédicte. La France essaie d'en nouer, elle aussi ?
Non, pour l'instant, aucun projet de ce type. On verra après les élections européennes, bien sûr.
Merci beaucoup, Bénédicte Tassard. Et merci, Marie Billon, à Londres. On marque une pause. Dans un instant, LVT midi, avec les rois du polar ésotérique. Giacometti, Ravenne sortent un nouveau roman. À tout de suite.
Polar ésotérique.
Oui.
Céline Landreau, Éric Brunet. RTL midi jusqu'à 13h.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive.
Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie, RTL.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez sa vaste et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536 €.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divan et de qualité.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390 € par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Moi, ça me rend joyeuse. La dernière fois, je suis revenue au bureau après un don de sang et il y a un collègue qui m'a dit « Mais t'es tout sourire, Sarah, aujourd'hui ?» C'est ça. À chaque fois que je donne, en plus d'être fière de moi, je me sens vraiment bien. On a tous une raison de donner son sang ou son plasma. Rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang.
Hé, hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige.
L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table dans RTL Midi avec une idée de lecture aujourd'hui. La clé et la croix, c'est le nouveau roman d'Éric Giacometti et de Jacques Ravenne, les créateurs d'Antoine Marcas, le flic franc-maçon devenu personnage culte du polar français. Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour, bonjour à tous. Mais oui, 3 millions de lecteurs et une recette imparable, une enquête contemporaine menée par Marcas sur fond de grande histoire et d'ésotérisme. Alors ici, la mort suspecte d'un grand patron italien de la mode et le secret qui lui a permis de bâtir son empire, qui pourrait bien avoir un lien, allez savoir, avec un épisode méconnu du règne de Napoléon que nous rappelle Éric Giacometti.
Napoléon a pillé les archives du Vatican, il était fasciné par les Templiers. On suppose, parce que les historiens ne sont pas tous d'accord là-dessus, nous, c'est notre imaginaire, dit, mais peut-être voulait-il retrouver la trace du trésor des Templiers. Et il a récupéré toutes les archives du procès des Templiers, qui ont été pillées et rendues ensuite par Louis XVIII. Et on s'est dit, mais si entre-temps, si Napoléon avait découvert quelque chose, et quand Louis XVIII a rendu les archives, il manquait un document qui aurait pu indiquer un secret perdu. À partir de là, l'imagination s'enflamme, on va faire le pont avec la période contemporaine. Et en l'occurrence, il s'agit d'un secret. Si vous avez secret, peut-être vous toucherez l'euro-million.
La promesse de lecture est immense.
Ah, oui. Là, il faut la tenir. Hein.
Alors justement, Bernard Lehu, est-ce que la promesse a été tenue?
Oh bah évidemment, l'intrigue est habilement ficelée, le suspense impeccable, les rappels historiques comme toujours passionnants et dans des lieux mythiques, Jacques Ravenne.
Il y a toujours un personnage dans le roman qui compte beaucoup, c'est le lieu où ça se passe. Là c'est l'Italie, donc c'est la Rome de l'époque impériale qu'on connaît très très peu. Cette Rome où le pape a été enlevé, où les Français...
Quand vous dites impérial, c'est Napoléon, c'est l'empire de Napoléon.
Et c'est une époque assez peu connue. De savoir que, effectivement, par exemple, Rome a été un département français à une certaine époque. Et c'est assez pour nous fascinant, comme ça, de faire des rappels. Et l'Italie est quand même le personnage qui sous-tend tout le texte.
On sent le plaisir, Bernard, de ces deux-là à imaginer leurs aventures.
Ben oui, alors il faut dire que leur complicité remonte à l'adolescence.
Puisque nous étions camarades de classe en seconde et que nous avions...
À Toulouse ?
À Toulouse, oui, au lycée, que nous avions des goûts qui nous portaient déjà sur ces questions, puisqu'on se passionnait pour l'ésotérisme local. Vous savez, Toulouse est très proche des cathares. Donc c'est une passion qu'on a toujours eue et qu'on a toujours développée.
Et elle se manifestait comment à cette époque-là du lycée ?
On a fouillé pour trouver le Graal sur les contreforts de Montségur. On est allé chercher Trésor des Templiers à Gisors, on y croyait vraiment. Moi je me souviens quand j'ai vu en 80 Indiana Jones, Les Aventures de l'Arche Perdue, c'était ça qu'on voulait vivre.
Comment est né l'enquêteur fétiche de Giacometti et Ravenne, je le rappelle, hein, les auteurs de ce roman, La Clé et la Croix. Comment est né donc cet enquêteur fétiche, le flic franc-maçon Antoine Marcas?
Eh bien, suite à un épisode qui aurait pu mettre à mal leur amitié, Éric Giacometti.
En fait, à l'époque, j'étais journaliste au Parisien, j'avais fait une enquête sur les dérives de la franc-maçonnerie sur la Côte d'Azur. Donc là, c'était des francs-maçons qui n'étaient pas forcément porteurs de lumière. Hein, ça, on était plus dans l'abus de bien social. Et Jacques lit l'un de mes papiers, explose, il me dit c'est pas possible, on en prend plein la gueule, nous les francs-maçons, on n'est pas tous comme ça, on se voit. Et à l'issue d'une soirée un peu arrosée, un peu houleuse, le lendemain, décision est prise. Alors on se dit, on va écrire un polar avec un héros franc-maçon. Et Jacques a trouvé le nom.
Alors c'est une très belle histoire, enfin à mon goût. Balzac, il a écrit une très jolie nouvelle, peu connue, qui s'appelle Z.Marcas. Et il a trouvé, paraît-il, sur une boîte aux lettres, le nom de Marcas. Et j'ai trouvé ça tellement beau qu'on s'est emparé de ce nom-là et on lui a créé Antoine Marcas.
Éric Giacometti et Jacques Ravenne fêteront l'an prochain leurs 20 ans d'écriture. Oui. C'est une belle longévité quand même pour ce duo inédit de l'édition française.
Certes. Alors pour finir, je leur ai demandé si, en dépit du succès, ils avaient connu des désaccords durant ces 20 années.
Oui, sur les femmes.
Mais dans l'écriture, pas...
Oui, dans l'écriture.
Vous me rassurez.
Non, en fait, Jacques avait une fâcheuse tendance à assassiner les femmes que rencontrait Marcas. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est plus possible, Jacques, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, ça a été sujet de friction. Et je me souviens même, on a eu droit à une engueulade chez lui, dans le Lot. Et ça a été rude, voilà. Toujours une femme, cherchez la femme.
Hein. Éric, mais pourquoi cet acharnement sur
Éric
les femmes,
Jacques Ravenne? Éric avait la habitude de créer des personnages féminins dont il ne savait absolument pas quoi faire à la sortie. Et dont il me disait, si tu pouvais me l'achever, ça m'arrangerait
non,
bien.
C'est faux.
Voilà. Et donc, si vous préférez, j'ai toujours tué, mais j'ai tué sur commande.
Des femmes, il y en a, et plusieurs, et bien vivantes, dont l'impératrice Joséphine, dans La Clé et la Croix, le nouveau Giacometti Ravenne, à lire chez Lattès. L'interview complète des deux écrivains est à découvrir sur l'appli RTL et RTL.fr.
Merci. Merci Bernard Lehu. Dans un instant, c'est le grand jury des auditeurs ont la parole. Nous recevons en direct Mathieu Vallet, candidat RN aux élections européennes, sur la liste de Jordan Bardella. Et vous, vous lui posez vos questions au 3210. À tout de suite.
RTL Midi.
Jusqu'au 30 avril, découvrez les séries limitées Audi Black Edition sur les modèles A1, Q2, Q3, A4 Avent et Q5 à partir de 370€ par mois avec apport. Profitez d'équipements d'exception comme le pack esthétique noir exclusif, le volant et les jantes Audi Sport et la caméra de recul.